bonne avec le premier coup de... Ouais. Ouais.
Bonjour, bienvenue à chacun dans ce lieu de culte. C'est toujours étonnant de voir la diversité des personnes. Moi, je suis toujours quelque part un peu troublé par le fait qu'il y ait des autres gens qui existent, je crois. Je crois qu'en fait, c'est ça. C'est ça qui me perturbe beaucoup, c'est-à-dire que j'imagine toutes... Vous êtes là comme personne, mais vous avez derrière vous... l'histoire de votre, vous avez derrière vous votre histoire personnelle, vous portez aussi l'histoire de vos parents, l'histoire de vos grands-parents, hein, il y a toute cette arrière-plan qui parfois peut être très gratifiant, très, très beau, qui parfois peut être très lourd aussi, et difficile à porter. Mais si nous sommes ici aujourd'hui, c'est au culte, pour rendre un culte à Dieu, c'est que non seulement nous sommes le produit de nos histoires, mais nous sommes aussi au bénéfice de cette nuée de témoins qui, au fil des siècles, nous ont permis de découvrir la personne de Jésus-Christ, des gens qui, comme le dit l'auteur des Hébreux, une foule de témoins, une grande foule de témoins, qui ont rencontré Dieu. Et tout au travers de la Bible, nous découvrons ces femmes et ces hommes rencontrés par Dieu. Et ils vont nommer Dieu. Et je vous propose d'entrer dans ces noms, d'entendre ces noms de Dieu qu'on trouve au travers de la Bible, Créateur, Très-Haut, Dieu qui donne, Jaloux, le Dieu jaloux, je suis. Voilà ce qu'ont murmuré Abraham, Moïse, Sarah et Rebecca. Dieu de mon père, mon rocher, mon rempart, Dieu des humbles, Seigneur des seigneurs, ont psalmodié David, Josias, Noémie, Ruth, ma lumière, Dieu de l'Alliance, mon Seigneur, Emmanuel, ont chanté Ézéchiel, Osée, ont chanté Esther et Anne. Alpha et Oméga, compatissant, miséricordieux, étoile du matin, Consolateur, ont prié Pierre, Jacques, Jean, et Marie. Et avec eux, nous pouvons redire Père, Fils, Esprit Saint, avec eux, nous pouvons redire ressuscité, Christ, avec eux, nous pouvons dire Jésus. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour cette foule de témoins qui, au travers des siècles, ont entendu ton nom que tu as rejoint. Nous te remercions pour leur fidélité qui nous permet aujourd'hui d'être ici et de nous présenter devant toi sans crainte. Nous te demandons, Seigneur, de ta présence durant ce temps de culte. Amen.
Bonjour. Nous aurons l'occasion de confesser le nom de Jésus dans un chant après, mais tout d'abord, j'ai une petite devinette pour vous. On peut passer le premier, PowerPoint, juste la première image. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non ! Bon, vous l'avez tous deviné. Il s'agit de deux endroits en Suisse allemande. Si, si. Alors, le premier est facile à prononcer, hein, Tegertschi. Et puis, le deuxième, c'est Rüdberg. C'est juste, hein? C'est richtig. Rüdberg. Hein? Rüdberg, voilà. Alors, il ne faut pas aller plus loin pour l'instant. Ah, bah, tu peux aller au suivant. Ce matin, on dira que ces deux petits termes sont un peu comme des haltes, hein, des étapes entre la terre et le ciel. Alors cet été avec Harry, on a fait un chemin, on a fait un petit itinéraire pédestre, on a marché pendant 6 jours. On est parti sur un chemin qui s'appelle le chemin du panorama alpin. C'est le chemin numéro 3, très important. Il part de Rorschach, il va jusqu'à Genève, ou de Genève jusqu'à Rorschach. Nous, on a choisi de faire un petit tronçon qui va de Lucerne, tout le monde connaît Lucerne, au Lac Noir, beaucoup de gens connaissent, je pense, en tout cas le nom du Lac Noir, c'est dans le canton de Fribourg. Schwarzsee, yeah. Voilà. Chaque jour, on a avalé pas mal de kilomètres. Et puis des panneaux, Van der Weg, Van der Weg, Van der Weg, hein, tourisme pédestre, on a suivi les panneaux jaunes. Aucun souci d'orientation, la Suisse est bien, a suffisamment de panneaux. Et en fait, pour nous, il n'y avait qu'à suivre le chemin numéro 3. Donc en principe, c'était tout bien indiqué. Alors on peut passer le dia suivant. Voilà, donc je confirme que Tegertschi et Rüdberg existent, puisqu'ils sont là. Et en dessous, vous voyez 3. On est sur la bonne route, hein, c'est cool. No soucis, comme on dit. Alors, au fil du parcours, je remarque, bon, on suit le chemin numéro 3, mais jamais, jamais, il est marqué pendant 5 jours Lac Noir. Jamais. Ou Schwarzsee, parce qu'on était plutôt sur sol suisse-allemand. Au contraire, on arrive dans des villages, des lieux, mais franchement inconnus. Moi, j'avais passé le village, je ne savais même plus le nom. Pourtant, j'aime beaucoup le suisse-allemand, mais voilà. Alors, on peut passer le dia suivant. Voilà, vous comprenez pourquoi en 5 minutes j'oublie les mots, parce que franchement, Rengloch, bon, Eigenthal, ça va, Schwarzenberg, mais Wolfs, Schlucht, voilà. Hein, c'est... Donc, c'est que le 5e jour qu'on voit apparaître le mot Lac Noir. Alors, on peut encore passer le suivant, parce que je trouve qu'il est pire. Alors là, on n'a pas été... C'est aussi le chemin numéro 3, donc on est sur la bonne voie. Mais voilà, si vous vous y repérez... alors ça, j'ai piqué sur Internet. Donc, le cinquième jour, on voit apparaître le nom Lac Noir. Yes! Alors, on est non seulement sur la bonne route, mais ça, on le savait depuis 5 jours qu'on était sur la bonne route. Mais en plus, on arrive au but. Donc, jamais on s'est senti perdu, jamais on s'est senti abandonné. Panneau 3, le petit panneau 3 vert là en bas avec la croix suisse. Yes, c'est le bon chemin. Alors, au fil de la marche, bien sûr, ça me vient l'idée, hein, vous voyez pourquoi j'en parle ce matin, c'est que cette semaine, c'est un petit peu comme la parabole de vie. Hein. On sait où on va, on a fait le choix d'aller, de suivre ce chemin, mais alors que d'inconnus entre deux. Hein. Alors nous, les inconnus, c'est pas écrit ciel le matin quand on se lève. C'est écrit famille, travail, programme, visite, rendez-vous, décision, repas, etc. Hein. Loisirs, ça va aussi dans les choix. Mais notre assurance, c'est que chaque jour... Hein, pour chaque jour, pour chaque jour réside dans le choix du but que nous nous sommes fixés. Ça, c'est important. Alors que ce matin, on puisse dire, redire notre confiance à Jésus pour sa présence à nos côtés. Et le lac noir, il est quand même arrivé à la fin. On peut vous montrer le dernier. Voilà, quand même, vous montrer qu'on y est arrivé et on en a bien profité. C'était un bon temps de repos en arrivant là-bas. Donc, que ce matin, on puisse dire notre confiance en Jésus pour sa présence à nos côtés. Il assure de faire route avec nous, il guide nos pas. Et c'est vrai que, voilà, on peut vivre des temps difficiles, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Alors, le prenez pas mal, hein, le Suisse allemand. Moi, j'aime beaucoup le Suisse allemand, mais c'est vrai que parfois, on ne comprend pas. Alors, j'ai utilisé un petit peu ces termes. Mais on sait où on va. On va au Schwarzsee, au lac noir. Hein. Alors ce matin, on va confesser la parole, la personne de Jésus en qui nous croyons. Et je vous propose de vous lever. Ce matin que nous croyons en toi, nous avons fait ce choix, tu nous as appelés, nous avons répondu et nous voulons te suivre. Sur les chemins caillouteux, sur les chemins inconnus, parce que Seigneur, nous savons que tu nous tiens par la main, que tu guides notre pas. Nous savons que nous pouvons te faire confiance, même si parfois nous ne comprenons pas tout sur le moment. Seigneur, merci d'être notre lumière, hein, d'être cette parole de vie dans nos vies. Amen. De continuer avec ce chant qui dit « C'était toi ». Et après ce chant, je propose un temps de prière où nous pouvons remercier Dieu, dire notre reconnaissance ou renouveler notre confiance que nous voulons développer avec le Seigneur, notre Père et notre Dieu.
Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel et trace de tes pas, que suis-je au éternel pour que tu penses à moi? Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillé. Du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans le rire d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas. Dieu de l'infini, soit la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Il le voit comme un cœur s'élève jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi.
Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Merci pour tout ce que tu es pour nous, pour chacun de nous.
Amen.
Quand nous voyons, nous contemplons cette nuit de
Amen.
Seigneur, je voudrais te dire merci pour toutes les fois que tu es venu vers moi, ma tête parle de quelque chose de toi, dans son regard, sa poignée de main, les paroles, les réflexions. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Merci parce que tu passes à travers les autres aussi. Amen.
Amen.
Oui, Seigneur, tu es le Dieu, grand Dieu créateur. Et pour nous, c'est un grand mystère de savoir que ce grand Dieu s'est penché sur nous, a donné son Fils Jésus, afin que nous connaissions la vie et la vie éternelle. Et merci Seigneur pour le don du Seigneur Jésus qui nous ouvre ce chemin de l'éternité, cette espérance sans limite. Nous t'adorons et te bénissons en retour et te disons notre reconnaissance.
Amen. Amen.
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a.
Il y a 15 jours, on a eu la visite de Jean-Marc et Martine Piou et ils nous ont envoyé une salutation de leur église que je demande à Christophe de nous projeter. Les voilà dans leur église. C'est pas pour rien que je demande qu'on projette cela parce que je sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est écrit « Nous défendons la cause des chrétiens persécutés autour du monde ». Ils ont fêté dimanche de l'église persécutée dimanche dernier, mais c'est en fait proposé aussi aujourd'hui et ce sera notre sujet. Merci Christophe. Salutations donc de la famille Piou. L'Église persécutée, malheureusement, c'est un sujet de grande actualité. Il y a, vous le savez peut-être, une rencontre chaque année à Paris. Les chrétiens se retrouvent et le thème cette année, c'est cette parole de Jésus, « Heureux les persécutés ». Vous savez également, et là j'invite Christine à monter pour la lecture, que nous sommes dans une série où nous rencontrons des personnes pas très connues dans la Bible. Si je vous dis Ebed-Melech, qu'est-ce que vous me dites? Ça vous dit quelque chose? Merci, on est sur la bonne piste. Et il se trouve dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Alors, on va le rencontrer ce matin. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir dans le livre de Jérémie, au chapitre 38. Et nous écoutons la lecture des 13 premiers versets.
Voici les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple. Il disait « Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Babyloniens aura la vie sauve. Sa vie sera sa seule part de butin, mais il vivra. Voici ce que dit l'Éternel. Il est certain que cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone. Il s'en emparera. » Les chefs dirent alors au roi, « Cet homme doit être mis à mort, car il décourage les hommes de guerre restés dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien-être de ce peuple, mais uniquement son malheur. » Le roi Sédécias répondit, « Il est à votre disposition, puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. » Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkia, un fils du roi, qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils y descendirent Jérémie à l'aide de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'y enfonça. L'Éthiopien Ebed-Melech, un eunuque attaché au palais, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or, le roi siégeait à la porte de Benjamin. Ebed-Melech sortit du palais et lui dit « Monseigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien. « Prends avec toi 30 hommes qui sont ici et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. » Ebed-Melech prit les hommes avec lui et se rendit au palais dans un endroit situé au-dessous du trésor. Là, il se munit de chiffons et de morceaux de tissu qu'il fit parvenir à l'aide de cordes à Jérémie dans la citerne. Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets donc ces chiffons et ces morceaux de tissu sous tes aisselles, là où passent les cordes. » C'est ce que fit Jérémie. Ils le tirèrent à l'aide des cordes et le firent ainsi remonter de la citerne. Jérémie eut ensuite pour habitation la cour de la prison.
Nous prions. Seigneur, en visitant la persécution de Jérémie et l'intervention d'Ebed-Melech, nous te prions d'ouvrir notre vision vers ton Église souffrante dans beaucoup d'endroits dans ce monde et aussi de nous parler de ce qu'elle pourrait être notre responsabilité à notre tour. Te prions, Seigneur, de nous accorder ton esprit pour que chacun d'entre nous puisse entendre ce que tu veux nous dire ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'était un discours qui dérangeait. celui qui sortira pour se rendre aux Babyloniens gardera la vie. Trahison. Voilà l'ennemi à la porte et Jérémie dit, mais sortez et vous allez avoir la vie sauve. Ensuite, il dit, cette ville de Jérusalem sera livrée aux mains de l'armée du roi de Babylone. Impossible. Il y a le Dieu de l'Alliance qui est de leur côté. Livré aux Babyloniens, ce peuple barbare, cet homme blasphème. Ainsi parle l'Éternel, c'est vite dit, mais c'est tout à l'opposé de tout ce que les autres hommes de Dieu disent à mort un tel homme. Et ce sont des réactions compréhensives devant un message qui contredit tout ce qui dit les chefs religieux. On les entend quelques chapitres auparavant dire, mais ne vous inquiétez pas. Ceux qui ont déjà été emmenés à Babylone en environ 700 avant Jésus-Christ, mais ils vont revenir dans 2 ans, vous allez voir, avec tout le matériel qui avait été emmené là-bas. C'est essentiel de le faire taire et au plus vite. Et on peut imaginer que c'était très simple ainsi de mobiliser l'opinion populaire contre Jérémie. Aujourd'hui, on dirait un discours contre l'État. Trahison, blasphème, ennemi de l'État, ce sont des accusations levées contre les chrétiens dans tellement de pays aujourd'hui. J'aimerais juste donner quelques citations, je ne vais pas lire tout le livre, mais c'est un livre qui raconte de différents milieux chrétiens la condition des chrétiens souffrant dans le monde. Vous constatez qu'il y en a beaucoup. C'est le groupe confessionnel le plus touché, même si les fidèles d'autres religions subissent aussi des menaces dans de nombreux endroits du monde. En septembre 2009, le président de la Société internationale pour les droits de l'homme, Martin Lessentin, a estimé que 80% des actes de persécution religieuse perpétrés dans le monde visaient des chrétiens. Il faut dire que Jérémie n'était pas à sa première épreuve. Il a été brutalisé par les autorités religieuses, mis aux entraves. Il a déjà été menacé de mort. Je vous le lis. Je peux vous donner les références avant si vous le souhaitez. Les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux ministres et à tout le peuple. La peine capitale pour cet homme, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos propres oreilles. Jérémie dit à tous les ministres et à tout le peuple, « L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. Toutes les paroles que vous avez entendues maintenant, réformez vos voix et vos agissements. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. » Et l'Éternel regrettera le mal qu'il a prononcé contre vous. Serait-il écouté? Et puis, là où on a fait notre lecture, juste le chapitre avant, on le retrouve au cachot. Jérémie a eu 40 ans de ministère. Et puis les 10 dernières années où nous le retrouvons sous le roi Sédéchias, qui était un roi faible, c'était sans doute les pires du tout. Il plaide, ne me livre plus, dans le cachot, je mourrai. La persécution ne s'arrêterait-elle jamais? Jusqu'à quand, Seigneur? C'est là le cri de beaucoup de chrétiens dans notre monde aujourd'hui. Comme Joseph, fils de Jacob avant lui, on se débarrasse de celui qui gêne dans la boue au fond d'une citerne. La mort lente, c'est ce que mérite ce dérangeur. Et semble-t-il, à l'indifférence de tous. Deuxième citation. C'est une citation du grand rabbin du Royaume-Uni. Donc il n'a pas de parti pris. Je vous le lis. Lord Sachs, grand rabbin du Royaume-Uni, avait dit au journal Le Télégraphe que les attaques continues contre les croyants chrétiens et leurs églises représentaient, et citation, l'équivalent religieux de la purification ethnique et étaient commises dans une quasi-indifférence. Voilà le prophète persécuté. Mais maintenant, une voix qui s'élève. Car voilà qu'arrive un de ces héros peu connus que nous sommes en train de découvrir dans la Bible. Ces héros quasiment oubliés. Il y en a eu tellement à travers l'histoire, il y en a encore tellement aujourd'hui. Je vous présente Ebed-Melech. Nous l'avons entendu, c'est l'étranger dans l'affaire. Il vient de ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan. Il est donc dans la minorité. En tant qu'étranger, il valait mieux plutôt faire profil bas, car il risque gros. C'est vrai qu'il a l'oreille du roi, chambellan, mais les ministres, eux aussi, l'ont. Donc plutôt que de faire tâche en levant la voix, ne valait-il pas mieux qu'il se taise? Ebed-Melech n'est pas un surhomme, il est très craintif concernant les représailles possibles, on y reviendra. Ce que j'aime chez cet homme, dans cette petite, je ne trouve pas le mot, il a brossé son portrait, merci, son petit portrait, c'est sa sensibilité. Il va chercher ses quelques lambeaux et ses vieux haillons dans la maison de la trésorerie pour que le prophète qui souffre ne se blesse pas davantage qu'on le soulève de la citerne. Il fait très simplement ce qu'il peut et de là naît l'espoir. Une seule voix s'élève en faveur de Jérémie, mais quel impact! Le texte nous dit qu'il est informé de la situation, peut-être il s'est informé. Dis donc, on ne voit pas beaucoup Jérémie ces derniers jours, ces derniers temps. Il s'informe et il réagit avec détermination, mais aussi avec le respect qu'il se doit. Ainsi, l'information, jusque-là cachée, est diffusée et l'indifférence est brisée, même pour un Sédécias. Il agit tout simplement selon ses possibilités et selon le nom qu'il porte, le serviteur du roi, c'est le sens de son nom. Pour Jérémie, quand ce qui couvrait la citerne était poussé, et cette voix qui se fait entendre, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, par-dessus les cordes. C'est là où il a reçu les premières lueurs du jour et les premières lueurs d'espoir, depuis on ne sait pas combien de temps. Mais j'ai aussi parlé non seulement de ces héros d'hier, mais aussi de ces héros d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu parler de la situation de Asia Bibi, une femme qui est dans le couloir de la mort au Pakistan? Je vous lis à nouveau un extrait. Les chrétiens subissent une intense et terrifiante persécution au Pakistan. En voici un exemple. À la suite d'une supposée dispute avec ses collègues, Madame Asia Bibi a été accusée d'avoir insulté le prophète Mahomet et a été par la suite reconnue coupable de blasphème contre l'islam. Elle a été condamnée à mort. Et alors que sa peine n'a pas encore été appliquée, certains hauts fonctionnaires de l'État pakistanais qui s'étaient prononcés en sa faveur ont été assassinés. En 2011, c'était Shahbaz Bhatti, ministre chargé des minorités, qui était aussi de confession chrétienne. Et ensuite Salman Taseer, l'ancien gouverneur de la province pakistanaise du Punjab, ont tous deux été assassinés après avoir exprimé leur soutien à Madame Bibi et condamné les lois sur le blasphème. C'est dangereux de se distinguer de la foule, mais une voix, seule voix qui s'élève, souvent un si grand prix, peut faire beaucoup de différence. On arrive au dénouement. Il y a une sorte de post-scriptum de notre histoire qu'on va découvrir. Jérusalem, maintenant, a été pris par l'armée babylonienne. Le roi Sédécias aussi avec, comme Jérémie l'avait prophétisé. À Jérémie, on propose des conditions de vie confortables à Babylone. Mais lui, il opte de rester dans son pays, là où il a tant souffert. Et Ebed-Melech, le très courageux serviteur du roi, qu'est-ce qu'il devient? Alors je vous invite à écouter la suite de l'histoire. Ça se trouve dans le chapitre suivant, au verset 15. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était détenu dans la cour de garde. « Va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville ce que j'ai prononcé pour le malheur et non pour le bien. Cela arrivera en ce jour-là sous tes yeux. Mais ce jour-là, je te délivrerai, oracle de l'Éternel. Et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu redoutes, les autres ministres. Je te ferai échapper, tu ne tomberas point par l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, oracle de l'Éternel. Tu auras la vie sauve, parce que tu as mis ta confiance en moi. Ce que tu redoutes, ne t'arrivera pas. Ce que tu n'aurais pas osé espérer, voilà ce que je te donne, la vie sauve, parce que tu as eu confiance en moi. On est peut-être étonné. Ce que Dieu permet arrive à ses porte-paroles, comme Jérémie et tant d'autres aujourd'hui, à son Église tellement persécutée. Tellement persécutée parce que il y a eu un débat dans le Parlement en Grande-Bretagne. Et dans ce débat, c'était relevé que les chrétiens sont victimes de l'une ou l'autre forme de harcèlement, avec ou sans l'appui des lois, dans 139 pays, soit dans près des trois quarts des sociétés humaines. Pourquoi Dieu n'intervient pas pour empêcher les brutalités, les emprisonnements injustes, les attentats? Ce dénouement de notre histoire montre pourtant que Dieu reste souverain. Tu ne seras pas livré, tu seras délivré. Je te délivrerai. Dieu reste maître de l'histoire. Comme Jérémie l'a annoncé, environ 70 ans plus tard, ceux qui seront amenés en Babylone reviendront. Des milliers d'exilés rentreront dans la terre promise. Preuve que non seulement les avertissements tenaient la route. Et puis on peut dire, tout parent le sait, les avertissements à ne jamais finir, mais ça n'a aucun effet dans la durée. Dieu est intervenu comme il a dit. Mais il a aussi intervenu comme il a dit par la suite pour faire revenir. Il a choisi encore d'exercer sa compassion parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Est-ce que Ebed-Melech était encore là pour voir ce jour glorieux? La Bible ne nous le dit pas, mais ce qui est sûr, c'est que son courage ne sera jamais oublié et que sa consolation, sa vie, sera éternel, comme pour tout chrétien. Je dis en conclusion, avec une dernière lecture, comment tenir dans un monde hostile? Jérémie a su le faire grâce au soutien d'une poignée d'amis. Nos frères et sœurs persécutés le font grâce au soutien de leurs amis qui, comme Ebed-Melech, restent largement anonymes. Persécutés mais non abandonnés, dira l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Où trouver la sécurité au milieu du chaos? La question aussi est d'actualité. Ebed-Melech, il me semble, montre la voie, car il agit avec courage et surtout parce qu'il garde sa confiance en Dieu malgré toutes les craintes qu'il aurait pu avoir. C'est un membre du Parlement qui parle. Je cite, c'est une déformation, la situation en Angleterre. J'ai eu le privilège de voir comment l'Église persécutée a répondu à la violence et à la haine dans de nombreux endroits. Et je me sont toujours emplis d'humilité et inspirés par le courage, la dignité et l'absence de toute expression du désir de vengeance dont elle fait preuve. J'ai marché à travers d'innombrables églises détruites, trébuchant sur les décombres de briques calcinées, d'éclats de verre, de croix et de crucifix brûlés et de bibles saccagées, au Soudan, Nigeria, en Inde, en Indonésie, sur l'ancienne terre arménienne. Il n'y a pas d'autre religion dans le monde qui ait subi une telle destruction systématique et généralisée de ces lieux saints que le christianisme. Nous avons constaté que les pierres criaient. Mais pour appeler au culte, souvent, quelques heures après une attaque, les chrétiens retournent sur leur lieu de culte au milieu des ruines de leur église. Les églises sont détruites, mais l'église vit. L'église croit et l'église aime. Jamais nous avons entendu de la part des chrétiens que nous avons rencontrés, qui ont été victimes de persécutions, le moindre discours de vengeance, ni vu se dessiner le moindre projet d'acte de représailles. Néanmoins, nous qui avons le privilège de vivre libre, avons le devoir de parler au nom de ceux qui sont privés de liberté. Les citoyens des pays libres pour qui la Déclaration universelle a un sens doivent élever leur voix contre toute violation des droits de l'homme. Voilà pourquoi nous rappelons dans ce jour de dimanche de l'Église persécutée la réalité de beaucoup dans notre monde aujourd'hui. Je vous encourage pas forcément à lire le livre, mais il y a des choses qu'on peut faire. Beaucoup sont abonnés déjà aux publications de Portes Ouvertes qui nous sensibilisent à ces réalités. Si ce n'est pas votre cas et vous souhaitez le faire, venez me le signaler après. Je propose de prier. Des histoires tragiques, mais la lumière d'hommes, de femmes courageux qui osent se distinguer, qui osent élever la voix, qui osent faire ce qui est dans leur possibilité. Seigneur, nous te prions de rendre nos cœurs sensibles au sort de nos frères et sœurs. Te disons notre reconnaissance pour notre liberté et nous te disons notre confiance que tu restes souverain et que chacun de tes enfants, peut-être leur corps a été meurtri, mais leur âme, tu ne les as pas livrés, tu les as délivrés et ils auront la vie sauve pour l'éternité. Que ce soit là l'espérance de chacun, nous prions au nom de Jésus. Amen.
En introduction à la scène, on vous propose le chant 553, tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel.
Ebed-Melech descendit dans les sous-sols du palais pour prendre des oripeaux qui lui permettraient d'agir. Et il retira Jérémie de la citerne, de la boue de la citerne. Presque une figure christique. Il descend pour nous relever. Par fonction, Jésus était Dieu. Par rôle, par nature, égal à Dieu, puissant, éternel. Mais il s'est dessaisi de son rang. Il n'a pas gardé jalousement la place de Dieu. Il est entré dans le temps, il est entré dans le rang des êtres de chair et de sang. Il est devenu un homme. Il n'a pas fait semblant. Et il s'est abaissé plus encore. Il a pris jusqu'au fond le chemin de l'humiliation. Il est allé à la mort. Il n'a pas fait semblant. Il a obéi jusqu'à la mort, jusqu'au fond de l'abîme, jusqu'au cri de l'abandon. Il s'est abaissé jusqu'à la croix, jusqu'à l'exécution, cloué, attaché, supplicié comme un esclave, comme un meurtrier. Aussi a-t-il reçu le nom que rien ne saurait égaler. Et c'est pour ça que tout ce qui existe, tout ce qui vit, tout ce qui respire, sur la terre et dans l'univers, au nom de Jésus, se met à genoux et les vivants proclament que Jésus est Seigneur.
Donc je lis l'institution de la scène dans Marc. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers.
Tu seras pas livré, je te délivrerai. Cette parole, Seigneur Jésus, tu l'as accomplie en notre faveur. Nous prenons ce pain, nous participons à la coupe en reconnaissant c'est toi qui es descendu pour nous relever. Et nous proclamons effectivement que tu es maintenant le ressuscité, assis à la droite du Père, au-dessus de tout. Béni sois-tu pour cette délivrance éternelle, la vie accordée. Amen. Merci pour la solidarité dans ta famille, de ce que toi, tu es solidaire avec nous. Tu l'as été, tu l'es, tu le seras pour toujours. Nous bénissons ton nom. Amen.
C'est le temps de l'offrande. Voilà, si on peut avoir le slide. J'ai pensé qu'une fois, pourquoi pas, puisque nous récoltons l'offrande, nous pourrions voir un peu à quoi ça sert. Voilà, alors peut-être que parmi vous, beaucoup le connaissent, mais peut-être pas tous. Ça donne juste une répartition de à quoi servent les dons et les offrandes qui sont recueillis dans notre Église, hein, EIM, l'Église évangélique de Mérin. Donc vous voyez, à peu près 50%, c'est salaire et charges sociales, pasteurs et stagiaires. 20%, grosso modo, le bâtiment. 20%, les 20% du haut, c'est notre participation à l'AFRIN, la participation à notre fédération d'Église. 4%, c'est des soutiens à des œuvres qui nous sont proches. Par exemple, l'année passée, nous avons offert un soutien à une église au Niger. Nous avons également fait un don au GBU et également soutenu la librairie chrétienne du Bouchet. Et puis, en vert, 7%, c'est les activités de l'église, c'est-à-dire à proprement parler l'achat de matériel, l'achat de cours de formation, la commission sociale. Voilà. Alors, c'est une manière de voir concrètement ce à quoi est destiné les offrandes. Et puis, on peut passer le second slide. Ça vous donne une idée de la proportion entre, en bleu, l'offrande qu'on recueille au culte, et puis en rouge, pâle, rouge-brun, les dons par le CCP. Voilà, à peu près un quart est recueilli lors du culte et puis trois quarts lors du CCP. Merci. Nous prions. Seigneur, nous te remercions de pouvoir participer à ton œuvre au travers des dons et des offrandes. Nous te prions pour les différents bénéficiaires, pour notre pasteur, pour le stagiaire, nous te remercions pour le bâtiment, ainsi que pour toutes les activités que nous pouvons entreprendre pour rendre visible la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen.
Ensuite, ce sont les annonces. Voilà, cet après-midi, il y a le groupe qui cherche à offrir un accueil aux réfugiés qui se retrouvent à 16h cet après-midi. Donc, vous êtes bienvenus si vous voulez découvrir ce qui se passe, ce début que nous désirons élargir pour venir en aide et offrir à ceux qui arrivent chez nous une possibilité de redémarrer dans la vie. Cet après-midi également, 17h30, cette pièce, vous connaissez la Marelle, et ils seront dans notre secteur au CEPUM cet après-midi à 17h. Voilà, la confection des paquets de Noël arrive à son terme. Il y a déjà une collection de paquets qui se sont accumulés dans les locaux en bas et il y a vraiment une récolte réjouissante. Il y a, je crois, encore la possibilité de déposer sur la table derrière si vous aviez encore amené des choses, apporté des choses. Voilà, vous avez entendu peut-être parler du discours sur l'écologie du pape François. Il y aura une présentation conférence débat à ce sujet ce mercredi à 20h au CEPUM. Voilà, dans notre famille d'église, la Fraye, il y a la rencontre générale qui aura lieu samedi prochain. C'est l'occasion de découvrir en condensé la vie de notre fédération. C'est pas que administratif, loin de là, on découvre les nouvelles de nos envoyés que cette partie du Camembert va pour soutenir. Alors ça, c'est une annonce qui est un peu plus lointaine, mais pour que vous bloquiez la date, dimanche 20 décembre, nous allons vivre notre fête de Noël. Quand Désir soit ouvert, ce serait l'après-midi à 15h30. Vous avez des suggestions, le thème sera effectivement la fête. Si vous avez des suggestions, prenez contact avec Paul-Robert Chanson qui coordonne notre fête. Et voilà, je passe la parole à lui aussi pour une information sur le groupe Mission.
Elle va paraître. Voilà. T'as une annonce à faire entre deux, mais... on s'excuse. Bon, je passe la parole à ma chère sœur.
Bonjour à tous. Alors, pour notre Kanski qui se déroulera du 26 décembre au 2 janvier, on aura besoin de quelques alimentations comme confiture, etc. Donc, on a fait des petites listes comme ça de denrées alimentaires qu'on va placer dans le foyer. Vous pouvez écrire votre nom, par exemple une bouteille de, par exemple du thé noir froid en poudre. Par exemple, vous mettez votre nom, puis vous prenez la petite étiquette qu'on a découpée sur le bord et vous l'emmenez avec vous, comme ça, vous n'oubliez pas de ramener les aliments dans la salle du groupe de jeunes en bas, ou un dimanche, si vous nous croisez, vous pouvez nous donner, on prend volontiers. Si jamais il y a des erreurs, des fois, c'est marqué « apporter une bouteille d'huile d'orange huile de jus d'ananas », puis c'est un peu bizarre, donc il faut venir nous voir si jamais c'est un peu bizarre comme ça. Donc voilà, merci.
Est-ce que ça joue ?
Voilà, je vais simplement donner un petit retour du Forum des Hommes. Donc nous étions quatre de l'EM à nous être retrouvés donc à Lazare, à Lausanne, à Bussigny. Et le thème était la transmission. Transmission, premier orateur, un pasteur de Tavannes, nous a parlé de la transmission à nos enfants, donc qu'on soit papa, maman ou grands-parents. Donc comment on transmet un peu la foi, comment on élève nos enfants dans la foi et comment on leur donne cette envie de suivre Jésus. Deuxième orateur, Didier Crelier, nous a parlé du discipulat, Donc avec lui-même est président des fabricants de joie, donc c'était aussi très très riche. Et le troisième orateur de l'après-midi était Didier Berger, donc ce brigadier de l'armée suisse qui a été le vice-président de la FRE. Et je veux dire que Daniel Berger, et il était assez décoiffant dans le sens où on a vu arriver le militaire, on s'est dit oulala, qu'est-ce qu'il fait un peu par là, qu'est-ce qu'il va nous présenter. Et je dois dire qu'il nous a son message, la finalité de son message, c'est prier pour la Suisse. Je crois que si la Suisse peut être protégée, c'est par la prière et non pas forcément par l'armée. Et je crois que c'était assez décoiffant. Alors j'encourage vraiment les hommes, la prochaine fois qu'il y aura, j'encourage vraiment les hommes, c'est vraiment, il y a aussi un temps de louange avec Tidjo et tout, c'était vraiment très très riche et très, ça vaut vraiment la peine avec les hommes de nous retrouver là-bas. Merci.
Décoiffant pour un brigadier, c'est étonnant. Alors, ça veut jouer ? Voilà. Vendredi soir, on a fait la même chose. Il devrait y avoir de la musique, normalement. Tant pis pour la musique. Alors, vous voyez que le groupe Mission, vous avez déjà deviné un petit peu, propose quelque chose d'un peu nouveau, un peu fou, c'est de partir tous en église à Florence, plus précisément à Fucecchio, pour rencontrer, découvrir, sentir sur place le service de ce couple que nous aimons beaucoup, nos envoyés de l'EM, les Saillants, Jean-Claude et Licia Chaillant, qui ont là-bas tout un nouveau travail qui s'intitule « Arbre de vie », où vraiment, dans la ville de Fucecchio, ils font un travail d'accueil, d'aide, d'annonce de l'Évangile auprès des réfugiés, auprès des gens qui sont socialement dans des grandes difficultés sociales. Alors voilà, c'est aussi des amis, et il y a d'autres couples qui travaillent avec eux là-bas. Quand j'ai proposé à Jean-Claude de lui dire « Nous allons peut-être venir te trouver », sa réponse a été « Ça me fait chaud au cœur ». Alors accompagnez-nous à Florence les 5, 6, 7 et 8 mai 2016, le week-end de l'Ascension. Inscrivez-vous sur soit notre site, groupe Mission, atmr1.com ou sur le tableau d'affichage au foyer. Nous sommes déjà une douzaine à être partants pour ce voyage. Ce voyage, bien sûr, on ira trouver nos amis saillants, mais on va doubler ça avec un peu de tourisme par là-bas autour, découverte aussi de quelques bonnes choses. Nous partirons, je pense, en autocar. Et ce voyage est quand même réservé aux adultes et aux jeunes adultes, je dirais, depuis 15 ans. C'est peut-être pas vraiment fait pour les enfants. Alors soyons un peu fous, inscrivons-nous pour cette aventure dans l'église hors du commun. Alors, j'ai compté une trentaine de personnes. Bien sûr qu'on peut partir à 50 et 60, on peut louer des cars, hein, si on a 5-6 cars qui doivent partir. Alors, on limite les inscriptions, parce qu'il faut qu'on puisse organiser, jusqu'au mois de janvier 2016. Pour un prix, il faut quand même savoir un peu une idée, c'est plus ou moins 400 francs qu'il faudra compter par personne pour faire ce voyage, le logement, l'hôtel, etc., etc. Et puis, s'il y a des questions, le groupe Mission et moi-même restons à votre disposition pour cette aventure et vous répondre à vos questions par rapport à cette aventure. Alors, on espère qu'on sera tous partants à l'Ascension 2016.
Merci Paul Robert pour ces informations. J'ajoute une dernière annonce. Il y a un petit stand de livres, de calendriers qui nous attend à la sortie du culte. Si Si on veut chercher des choses pour Noël ou pour tout de suite. Nous allons passer à la conclusion de notre culte, mais il a la suggestion que, comme on a reçu cette belle photo de l'église à Grenoble, quand on se met devant, après la bénédiction, pour une photo qu'on pourrait à notre tour leur envoyer nos salutations. Donc, sauf si vous êtes pressés à partir, si on peut juste se mettre devant sur l'estrade à côté, et puis une photo pour, à notre tour, saluer nos amis à Grenoble. Je vous invite à vous lever. Persécutés, mais non abandonnés. Au reste, soyez dans la joie, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix autant que cela dépend de vous, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion de l'Esprit Saint soit avec chacun. Amen. Donc, si vous avez le temps, juste venez devant.